Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le 9e dimanche après la Pentecôte, et c'est aujourd'hui aussi la fête d'une très grande sainte, une des plus grandes saintes de l'histoire de l'Église, Sainte Marie Madeleine, pénitente. Alors, je voudrais essayer de vous aider à partir des textes liturgiques de ces deux fêtes, à bien sanctifier ce jour du Seigneur, ce dimanche. Voyons d'abord ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile du dimanche. Donc il est tiré de Saint Luc au chapitre 19. Notre Seigneur Jésus-Christ va en quelque sorte faire une prophétie en s'adressant aux Juifs et à tous ceux qui l'écoutent. Voilà ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il est aux abords de Jérusalem, il regarde la ville et il pleura sur la ville de Jérusalem en lui disant « Ah, si du moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Mais maintenant tout cela est caché à tes yeux. Il viendra pour toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Ils t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront complètement, toi et tes enfants qui sont dans ton enceinte, et ne laisseront point en pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous dit deux choses intéressantes. Il ne parle pas simplement aux gens qui l'écoutaient il y a 2000 ans, il parle aussi à chacun d'entre nous. Il nous dit, si vous connaissiez ce qui peut vraiment vous procurer la paix, tous les hommes cherchent la paix. La paix intérieure, la paix extérieure, mais personne ne va la chercher là où il faut la chercher. Le seul être qui est capable de nous donner la véritable paix, la paix durable, la paix intérieure, la paix du cœur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ceux qui ne veulent pas chercher leur paix en notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont la chercher dans les choses matérielles. Donc ils vont envahir, ils vont amasser dans leur cœur, dans leur âme, toutes les choses matérielles possibles. C'est comme si vous voulez, si on mettait beaucoup trop de bois dans le feu, et le feu s'éteint parce qu'il y a trop de bois. C'est un peu la même chose. Toutes ces choses matérielles qui sont amoncelées comme un tas énorme dans l'âme vont complètement détruire la vie spirituelle de l'âme. Donc posons-nous cette question, est-ce que je connais celui seul qui peut me procurer la paix? Notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Ne cherchez pas la paix, mes bien chers frères, ailleurs qu'en notre Seigneur Jésus-Christ. On cherche la paix et la tranquillité dans l'argent, on cherche la paix et la tranquillité dans toutes les choses matérielles d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas là qu'elle se trouve. La paix se trouve au pied du crucifix, au pied de l'autel, au pied du tabernacle. C'est là où vous la trouverez. Et notre Seigneur Jésus-Christ, en ce texte de Saint-Luc, donne un deuxième avertissement. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire ce texte un peu étrange? Donc, cette prophétie des malheurs de la ville de Jérusalem. Il annonce la destruction du temple de Jérusalem. Vous savez que cette destruction du temple de Jérusalem et de la ville de Jérusalem a été prophétisée, non seulement ici, par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, donc il annonce ce qui va se passer, mais elle a été annoncée par des tas de prophètes. Beaucoup des prophètes ont annoncé cette même catastrophe à cause justement du fait que les Juifs ont tué notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous lire un texte très connu qui a été écrit par un historien juif qui s'appelait Joseph. Voilà ce qu'il dit. C'est un écrivain contemporain de la destruction de la ville de Jérusalem. Vous savez que la ville de Jérusalem a été complètement détruite du 14 avril au 1er juillet de l'an 71 par l'empereur Titus. Et tous les pères de l'Église, tous, reconnaissent que cette destruction de la ville de Jérusalem est un châtiment pour le déicide des Juifs, pour le fait que les Juifs ont condamné à mort notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, c'est la loi romaine qui a condamné notre Seigneur, c'est-à-dire Pilate lui-même, mais c'est les Juifs qui ont demandé, exactement les politiciens juifs qui avaient demandé la mort de notre Seigneur. Voilà ce que dit Joseph. « 200 000 juifs moururent de faim pendant le siège de Jérusalem du 14 avril au 1er juillet de l'an 71. Près de 116 000 cadavres sortirent par une seule porte de la cité. 1 100 000 hommes furent tués dans la ville et 240 000 dans le reste de la Judée. Une forêt de croix s'élevait dans la campagne et le long des chemins où d'innombrables victimes expiaient le crime du calvaire. On ne saurait évaluer le nombre des esclaves qui furent emmenés à Rome ou vendus aux peuples étrangers. Jésus avait été estimé 30 deniers, on donnait alors 30 juifs pour un denier. Dispersé dans le monde entier, ce peuple porte partout le stigmate du déicide. Il n'a pas voulu la bénédiction, la malédiction l'accablera. Le sang du calvaire ne cessera de retomber sur lui et sur ses enfants. En dépit de toutes les causes de destruction, il traversera siècles et peuples sans disparaître et sans se fondre. Cette race ne peut périr, il faut qu'elle dure pour expier son crime jusqu'au jour où ses yeux s'ouvriront pour reconnaître et adorer le Dieu qu'elle a rejeté et crucifié. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Avec la prophétie, il dit aussi qu'il y aura à la fin des temps la conversion d'un reste des Juifs. Donc il faut prier pour leur conversion pour qu'eux aussi puissent un jour recevoir ce sang salvifique qu'ils ont appelé sur leur tête. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ annonce cette destruction de la ville de Jérusalem. Et ce n'est pas simplement la ville de Jérusalem qui est ici visée, mes bien chers frères, c'est notre âme. Quand notre Seigneur Jésus-Christ prophétise en disant « Il viendra pour toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts », c'est notre âme qui est désignée aussi là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon va essayer de nous entourer de ses fortifications à lui pour nous empêcher de nous épanouir sous le regard du bon Dieu. Le bon Dieu va essayer de nous garder en prison spirituelle en quelque sorte pour que nous ne puissions pas retrouver la véritable liberté avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la prophétie qui annonce la destruction de la ville de Jérusalem, c'est aussi une prophétie qui annonce la mort de notre âme, la destruction de notre âme, si nous ne faisons pas attention de garder notre Seigneur Jésus-Christ en notre âme par la grâce sanctifiante. Si nous avons le malheur de faire comme les Juifs, de crucifier notre Seigneur Jésus-Christ par le péché mortel, quand nous commettons un péché mortel, nous renouvelons le sacrifice du calvaire en crucifiant notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de notre âme, et bien dans ce cas-là, c'est la même chose, ça sera la même chose pour nous. De même que le peuple juif a été vendu comme esclave à cause de leur déicide, de la même façon, si nous renouvelons, nous, les catholiques, ce déicide par le péché mortel, la mort de Dieu dans notre âme, nous aurons nous aussi un prix terrible à payer. Prix terrible à payer. N'oublions pas toutes ces choses-là, mes bien chers frères. Donc il nous faut éviter, évidemment, le péché de présomption, éviter le refus de la vérité connue comme telle. C'est pour ça que notre Seigneur dit « Tu n'as pas connu le temps, tu as été visité. » Nous sommes visités par la grâce sanctifiante. Est-ce que j'ai accepté cette visite de notre Seigneur Jésus-Christ ou est-ce que j'ai rejeté notre Seigneur Jésus-Christ alors qu'il venait frapper à ma porte? Donc quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Tu n'as pas connu le temps, tu as été visité », en fait c'est de la grâce sanctifiante dont il parle aussi sur le plan spirituel. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ nous visite, il frappe à notre porte. Ça sera par des grâces actuelles, ça sera par certains signes de la Providence, ça sera par une bonne confession, ça sera par une bonne retraite. Est-ce que j'ouvre ma porte ou est-ce qu'au contraire je ferme la porte de mon âme ne reconnaissant pas le temps où j'ai été visité? Malheur à celui qui a refusé la grâce du bon Dieu, mes bien chers frères. Devons faire très attention à ne jamais rejeter la grâce du bon Dieu parce que si nous la rejetons, nous ne sommes pas sûrs du tout qu'elle repassera. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas obligé de revenir frapper à une porte qui a refusé de s'ouvrir pour lui. Et pour expliquer, continuer dans ce genre d'explication, dans le même évangile proposé par la Sainte Église pour le 9e dimanche après la Pentecôte, donc un Saint-Luc, il y a un autre texte qui dit exactement la même chose sous une autre forme. Il est écrit « Ma maison est une maison de prière ». De quelle maison parle-t-il? Mais là encore, spirituellement parlant, le sens spirituel, le sens caché, cette maison qui est une maison de prière, c'est notre âme, mes bien chers frères. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà ce que dit notre Seigneur. Ma maison est une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors posons-nous la question. Est-ce que je n'ai pas transformé ma maison, qui avait toute été ornée, qui avait été glorifiée par le caractère du baptême, le caractère du baptême qui a fait de moi un enfant de Dieu, par cette marque indélébile que seuls les catholiques reçoivent qui fait d'eux des enfants de Dieu. Donc ma maison était une maison de prière. C'est une maison qui devait être consacrée au bon Dieu et qui a été consacrée au bon Dieu le jour de mon baptême. Pas simplement par les eaux du baptême, mais même par les saintes huiles. Elle a été consacrée par l'huile des catéchumènes, elle a été consacrée par le Saint-Crème que le prêtre va utiliser pendant le baptême. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Une caverne de voleurs. Donc à chaque fois que je commets un péché mortel, mes bien chers frères, je transforme la maison de prière de mon âme en une caverne de voleurs. J'aurai des comptes à rendre pour tout cela. Alors, dans l'épître du même jour, du même dimanche après la Pentecôte, elle est tirée, cette épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 10. Donc, c'est la première aux Corinthiens, chapitre 10. Donc, il y a encore beaucoup de choses, de conseils, d'avertissements plus exactement, qui nous sont donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ va rappeler par Saint Paul les châtiments que Dieu a envoyés sur les pécheurs qui ne veulent pas se convertir. Et voilà ce que dit Saint Paul. Ne commettons pas de fornication. Comme plusieurs le firent parmi eux, il en périt 23 000 en un seul jour. C'est l'allusion à un texte de l'Ancien Testament qui rappelle justement que 23 000 Hébreux sont morts à cause de leur fornication. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur. Or, toutes ces choses leur sont arrivées en figure et elles ont été écrites pour nous instruire, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Donc ces choses sont en figure, c'est-à-dire qu'elles représentent quelque chose d'autre. Donc cette âme dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien cette maison de prière, c'est notre âme, encore une fois. Elle est représentée, cette maison de prière est représentée par notre âme. C'est à nous de la protéger pour en faire une maison de perdition, une caverne de voleurs. Alors si nous sommes un peu découragés par l'énormité de nos responsabilités, écoutons le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ, l'avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui croit être ferme, il prenne garde de tomber. Dans une autre traduction, il dit que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. La tentation, deux tentations, aucune ne vous est arrivée qui n'ait été à la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il fera en sorte qu'après, avec la tentation, vous ayez aussi de quoi pouvoir la supporter. Notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle qu'il ne refuse jamais sa grâce à celui qui la lui demande avec humilité. Jamais la tentation ne sera trop forte. Mais il nous donne les grâces. Ça ne veut pas dire que tout le temps, il va obéir au doigt à l'œil à tout ce que nous demandons. Parfois, nous demandons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Saint Paul avait une tentation terrible, vraisemblablement un aiguillon de la chair, dit le texte de Saint Paul, sans doute une grosse tentation contre la pureté. Et trois fois, il demande à notre Seigneur Jésus-Christ, « Délivrez-moi de cette tentation. » Et qu'est-ce que lui répond notre Seigneur? « Paul, ma grâce vous suffit. Ma grâce vous suffit. » Mais ce qu'il a dit à Saint Paul, il nous le dit aussi à nous. « Mon petit ami, ma grâce vous suffit. Prenez ma grâce qui vous est offerte pour ne pas transformer votre âme en une caverne de voleurs. Et si vous avez déjà eu le malheur de transformer votre âme en une caverne de voleurs, utilisez ma grâce sanctifiante que je vous propose par l'intermédiaire du sacrement de pénitence pour retrouver immédiatement l'état de grâce. » Alors attention à cette humilité. Dieu est fidèle, nous dit Saint Paul. Dieu est fidèle, donc nous n'avons pas à craindre. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donnera toujours les grâces dont nous avons besoin pour pouvoir changer nos âmes. Le bon Dieu prête l'oreille à la voix de sa miséricorde. C'est l'oraison du 9e dimanche. Prêtez l'oreille de votre miséricorde, Seigneur, aux prières de ceux qui vous invoquent. Et afin d'exaucer leurs vœux, faites-leur demander ce qui vous agrée. C'est-à-dire, « Oh mon Dieu, donnez-moi la grâce de vous demander ce que je dois demander, pas de vous demander ce que je veux vous demander. » Souvent on demande au bon Dieu, « Délivrez-moi tous les péchés, délivrez-moi toutes les tentations, que j'ai plus de tentations, que ma vie soit un long fleuve tranquille. » Ce n'est pas ça que le bon Dieu veut que nous demandions. La vie d'un catholique n'est pas un long fleuve tranquille. La vie du catholique est une vie de combat, combat pour garder l'état de grâce. Et la sainte d'aujourd'hui, Sainte Marie-Madeleine, encore une fois, une des plus grandes saintes de l'histoire de l'Église, c'était certainement une des saintes les plus populaires du Moyen-Âge, après la Sainte Vierge, bien sûr. Il y avait Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, c'était la sœur de Saint Lazare, la sœur aussi de Sainte Marthe, et c'était une pécheresse publique. Eh bien, elle va être convertie par un serment de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, demandons-lui de nous donner d'obtenir les mêmes grâces que notre Seigneur Jésus-Christ a données à Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine était comme nous une pécheresse. Nous aussi, nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes peut-être pas des pécheurs publics comme elle l'a été elle-même, mais nous sommes des pécheurs comme elle. Et qu'est-ce qu'a fait Sainte Marie-Madeleine? Voici qu'une femme, dit l'Évangile, de la fête du 22 juillet, Sainte Marie-Madeleine. Voici qu'une femme qui était une pécheresse de la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre rempli de parfum. Et se tenant en arrière à ses pieds, elle se mit à arroser ses pieds et ses larmes, et de ses larmes, elle essuyait de ses cheveux, pardon, elle se mit à arroser ses pieds de ses larmes et à les essuyer de ses cheveux. Elle lui baisait les pieds et les oignait de parfum. Et notre Seigneur Jésus-Christ va donner à la fin de cet évangile une explication extraordinaire de cette grâce qu'il a donnée. Parce qu'évidemment, les pharisiens qui étaient dans la salle du festin sont scandalisés. Scandalisés tous, ils ne comprennent pas. Ils se disent entre eux, si cet homme était prophète, il saurait certainement qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, car c'est une pécheresse. Et notre Seigneur Jésus-Christ va lui dire, à lui parler avec bonté, et va lui expliquer pour qu'il ouvre aussi son cœur, lui aussi à la grâce. Et lui dit, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, n'a cessé de baiser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. C'est pourquoi je te le dis, beaucoup de péchés lui seront remis parce qu'elle a beaucoup aimé. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Celui à qui on remet moins aime moins. Alors il dit à cette femme, vos péchés, tes péchés te sont remis. Méditons, mes bien chers frères, nous aussi, méditons cette parole extraordinaire. Nous sommes un peu comme Sainte Marie-Madeleine. Nous aussi, nous sommes des pauvres pécheurs. Et nous aussi, nous avons presque peur de venir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ à cause souvent de l'énormité de nos péchés. Alors nous sommes tout tremblants, nous n'osons pas nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut méditer et prendre pour nous cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Si nous avons beaucoup à nous faire pardonner, si vous avez beaucoup à vous faire pardonner, aimez en proportion. Souvent, quand je prêche les exercices de Saint-Ignace, parfois il y a des conversions très, très extraordinaires ou des confessions très lourdes de personnes qui se confessent pour la première fois, parfois depuis 30 ou 40 ans. J'ai eu il n'y a pas longtemps, dans une retraite, un monsieur qui a fait sa première confession à 68 ans. C'est jamais tard pour bien faire. Et après des grosses confessions comme cela, parfois les gens sont découragés en disant, Monsieur l'abbé, comment est-ce que je peux rattraper cette vie passée de péché? Qu'est-ce que je dois faire pour rattraper tout ça? Et je donne toujours la même réponse, rattraper par l'amour. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup lui seront pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Aimez en proportion de vos péchés. Si vous avez beaucoup de péchés qui vous ont été pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le cas pour vous et moi, mes bien chers frères, rattrapons ça par l'amour. Aimons notre Seigneur Jésus-Christ en proportion de la masse de péchés qui nous a pardonnés. C'est la moindre des choses. Quand quelqu'un nous fait un cadeau magnifique, la moindre des choses, c'est de remercier. Et de remercier en aimant la personne pour bien lui montrer qu'on n'a pas oublié tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ va dire à Sainte Marie-Madeleine, vos péchés sont pardonnés. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas exigé une longue accusation, une longue liste de péchés. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que ce cœur de Sainte Marie-Madeleine était plein d'amour du bon Dieu, que ce cœur de Sainte Marie-Madeleine était rempli de contrition pour ses péchés. Immédiatement, il pardonne. Vos péchés sont pardonnés. Allez en paix. Et là, vous voyez, on retrouve la véritable paix, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette paix que le monde moderne est absolument incapable de nous donner. Rappelez-vous le texte de l'évangile du jour de 9e dimanche après la Pentecôte. Si du moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. La paix, elle est là, justement. Ça tombe bien que ce soit la fête de Sainte Marie-Madeleine ce même jour. La paix, elle est là. Que la paix soit avec vous. Allez en paix, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Votre foi vous a sauvé. La paix, c'est la paix que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut donner. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cette paix que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut donner. Ne nous détruisons pas, ne nous perdons pas avec tous les faux plaisirs de ces vacances qui malheureusement sont pour tant de gens en France l'occasion de bien des péchés. Ne nous étourdissons pas avec justement toutes ces choses matérielles. N'oublions pas le principal. Ce n'est pas en nous jetant dans le bruit, en nous jetant dans le désordre des plages de ces mois d'été sur la Côte d'Azur ou ailleurs que nous allons trouver la paix, mes bien chers frères. La paix, nous la trouverons en notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, si nous regrettons du fond du cœur tous nos péchés, nous dira exactement la même chose que ce qu'il a dit à Sainte Marie-Madeleine. Allez en paix, vos péchés sont pardonnés, allez en paix et restez en paix. Et cette Marie-Madeleine a changé du jour au lendemain. Alors, mes bien chers frères, nous voyons dans ce texte de Sainte Marie-Madeleine la miséricorde extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard du pécheur repentant. Notre Seigneur Jésus-Christ ne demande qu'une seule chose, c'est exercer cette miséricorde. Alors utilisons cette miséricorde du bon Dieu. Imaginez que nous mourons de faim, le bon Dieu vient nous ravitailler, nous amène un plateau plein de victuailles pour que nous mangions à notre faim et nous puissions éviter la mort par manque de nourriture. Et nous refusons de nous approcher de ce plateau. Nous méprisons cette nourriture qu'il nous donne et nous mourons de faim. Alors ne soyons pas comme cela, mes bien chers frères. Jetons-nous aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous nourrir de cette nourriture, surtout la nourriture supernaturelle, surnaturelle qu'il nous donne, le pardon de nos péchés. Il ne demande qu'une seule chose, encore une fois, c'est exercer sa miséricorde. Alors prions la Sainte Vierge, prions Notre-Dame, rappelons-nous auprès de Notre-Dame, rappelons-nous justement tout ce que Notre-Dame est prête à obtenir pour nous, parce que toutes ces grâces extraordinaires de pardon passent par elle. Elle est la médiatrice de toutes les grâces. Donc passons par Notre-Dame pour justement que nous puissions nous rapprocher de son divin Fils. C'est le rôle de la Très Sainte Vierge, nous amener à son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.